Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mauni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Quelle solution durable à la crise actuelle du Mali? C'est le thème de ce numéro de Grand Dialogue. Mesdames et messieurs, bienvenue. Crise, coupure intempestive d'eau et d'électricité, hausse du prix des hydrocarbures, insécurité, augmentation des tarifs des transports. La population malienne fait face à une crise socio-économique complexe. La situation provoque une paralysie dans certains secteurs, entraîne une inflation, entre autres. Pourtant, l'État consent 3 milliards de francs CFA chaque mois pour subventionner le secteur des hydrocarbures. Selon les autorités, la flambée des prix du carburant est liée aux tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Alors, comment s'en sortir? Quelles sont les solutions durables à cette crise socio-économique? Studio Tamani ouvre le débat aujourd'hui avec ses invités au nombre de deux. Mokhtar Diarra, président de l'ALCOM, Association libre des consommateurs du Mali, et Modibo Maomakalou, économiste. Je suis Moussa Malessi Soko à la présentation.
Le Grand Dialogue.
Mesdames et messieurs, bienvenue. Chers invités, merci d'avoir répondu à notre invitation. Mokhtar Diarra, vous êtes président de l'ALCOM. Comment vivez-vous cette crise en tant que consommateur?
Je peux dire que la crise n'a pas commencé aujourd'hui. La crise au Mali a débuté vers 2025 par un blocus historique de djihadistes qui ont attaqué des citernes. Cette situation a provoqué la pénurie des carburants. Depuis ce moment jusqu'à aujourd'hui, vraiment, on n'arrive pas à trouver les carburants dans certaines stations.
D'accord. Alors, M. Makalou, où se situe réellement le problème?
Quel problème?
La crise, de façon générale, actuellement.
Bon, vous voulez parler des hydrocarbures?
Des hydrocarbures, coupure intempestive.
Bon, tout est lié, hein, oui. Parce que, vous savez, le Mali est importateur net d'hydrocarbures et c'est notre premier poste d'importation. Ça veut dire que si vous regardez notre balance commerciale, 33% de tout ce que nous achetons à l'extérieur, composé d'hydrocarbures et des produits dérivés. C'est l'essence, c'est le gasoil, c'est le DDO, c'est le fuel, c'est le kérosène, c'est le pétrole lampant, c'est le gaz butane, tous ces produits que nous utilisons tous les jours dans la production nationale, dans la consommation nationale, dans l'activité économique. Et donc, l'accès à l'énergie est essentiel pour l'activité économique d'abord. Parce que cette hausse du prix des hydrocarbures, qui date du samedi 28 mars 2026, va avoir un effet non seulement sur le prix des transports, le prix de l'énergie d'abord, commencer par l'électricité, parce que notre société de production et de distribution d'électricité, Énergie du Mali, produit l'électricité à hauteur de moins 75% sur la base du thermique, donc des hydrocarbures et notamment du gasoil. Donc si le coût du gasoil augmente, les coûts de production d'EDM vont augmenter. Mais aussi les transports, vous le voyez, et évidemment tout ce qui est transport en commun, transport public, évidemment le fait que 100 francs CFA ait été la hausse du prix du litre d'essence à 875 francs, c'est une hausse de 13%. Mais le gasoil, c'est une hausse de 215 francs CFA le litre. Et c'est une hausse de 30%. D'accord. Donc ces prix seront répercutés sur l'ensemble des biens et des services que nous consommons tous les jours. Parce que, évidemment, tous ceux qui utilisent, que ce soit le maraîchage, que ce soit les denrées de première nécessité, que ce soit surtout les produits, l'alimentation, tout cela va être affecté. Et je pense qu'il y aura une inflation, une hausse généralisée des prix, basée sur le fait que le prix à la pompe a augmenté.
D'accord. Vous venez d'entendre l'économiste Makalou. Est-ce à dire, selon vous aussi, tout est lié? Vous avez parlé de l'insécurité tout à l'heure, mais la hausse du prix des hydrocarbures, est-ce que ça impacte beaucoup vous, les consommateurs? Est-ce que vous sentez réellement l'impact?
Bon, effectivement, nous sentons l'impact à l'augmentation des carburants. Parce que quand on voit aujourd'hui les gens qui quittent dans leur famille pour aller travailler, s'ils n'arrivent pas à avoir les véhicules à temps réel pour subvenir à leurs besoins, c'est tout à fait un problème. Oui.
Est-ce qu'au niveau des marchés, vous constatez l'impact?
Oui, on a constaté des impacts. Même auparavant, quand ils rentrent dans le grand marché de Bamako, le marché était très rempli avec des gens. Mais avec ces problèmes de carburant, que les gens, la mobilité est très difficile. Même auparavant, on achetait la litre de carburant à 725 francs CFA. Aujourd'hui, c'est à peu près 875 francs. Bon, je peux dire que ça va impacter beaucoup sur le marché. Surtout nous, les consommateurs.
Ok. Mais par rapport aux coupures d'eau et d'électricité, on a vu qu'à Bamako, il y a certains quartiers de Bamako, et au niveau des capitales régionales également, les populations souffrent, passent des heures au niveau des fontaines pour au moins accéder à ce précieux sésame.
Mmh. Effectivement, l'autre jour, j'ai écouté le directeur hydraulique. Et il a parlé sur le problème d'eau et d'électricité. Et surtout, il a parlé de l'eau. Et même à Djalakorodji, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent même pas à avoir d'eau à cause de carburant. C'est-à-dire, c'est le gasoil qui alimente les groupes électrogènes. Si on n'arrive pas à avoir le gasoil, ça peut créer beaucoup de choses en matière d'eau et...
Ok. Mais, Monsieur Makalo, vous l'avez souligné tout à l'heure, tout est lié. Mais immédiatement, dans l'immédiat, quelles sont les solutions à la crise d'eau et d'électricité?
Mais écoutez, c'est lié. Ce que beaucoup de personnes ne savent pas, l'eau, il faut d'abord la traiter, le traitement chimique de l'eau pour rendre l'eau potable. Il faut ensuite pomper, il faut distribuer. C'est avec de l'électricité qu'on fait cela. Si vous n'avez pas d'électricité, vous n'allez pas avoir d'eau potable. C'est lié. Je pense que, évidemment, la SOMAGEP ne dit pas que c'est parce qu'il n'y a pas d'électricité, mais moi, je peux le dire. Donc, c'est lié. Tant que nous n'aurons pas d'électricité, le problème d'eau potable aussi va se poser, surtout dans la périphérie, hein, parce que ça va être assez compliqué. Je pense qu'il faut quand même changer d'approche. Il faut changer d'approche. Il faut que nous réduisons la facture énergétique de notre pays. L'année dernière, elle s'élevait à 1200 milliards de francs CFA. Ce qu'on a acheté comme produits pétroliers et dérivés. Et vous savez, la difficulté, c'est que nous dépendons des prix internationaux des hydrocarbures. Donc le prix fournisseur, le Mali est un importateur net de produits pétroliers, c'est-à-dire que nous ne produisons pas de pétrole chez nous, une goutte de pétrole chez nous. Oui. Nous achetons à l'extérieur, mais il y a 37 autres pays qui importent aussi, qui achètent à l'extérieur le carburant. Oui. Donc quand les prix internationaux augmentent, comme c'est le cas actuellement, parce qu'au début de la guerre, le 28 février 2026, le baril de pétrole Brent de la mer du Nord, c'est... était acheté avait un prix de 73 $. Hier, on était à 105 $, mais c'était déjà allé jusqu'à 120 $. Et les analystes estiment que si la guerre se prolonge, il n'est pas exclu que nous arrivons à 150 $, 200 $.
La guerre
au Moyen-Orient, hein, qui implique pratiquement les grands pays producteurs de pétrole et de gaz, parce que on parle de l'Iran, mais ce n'est pas l'Iran seul. Bien vrai que l'Iran soit le troisième producteur au sein de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, vous avez l'Iran et ses voisins, l'Irak, mais aussi les 6 pays du Conseil de coopération du Golfe, le Conseil de la coopération du Golfe, l'Arabie saoudite, Oman, Qatar, Bahreïn, Émirats arabes unis, qui sont grands producteurs de pétrole et de gaz. Et c'est 20% de cette production mondiale, 20 millions qui devaient passer normalement avant le conflit, qui passait par le détroit d'Ormuz, qui relie le golfe Persique au golfe d'Oman, à la mer d'Arabie, puis au reste du monde. Mais l'Agence internationale de l'énergie a estimé qu'il y a 11 millions de barils qui manquent au marché mondial sur les 100 millions de barils qui se vendent tous les jours. Cette pénurie, cette quantité physique qui manque, fait que les prix augmentent. D'accord. Donc, quand le prix international augmente, la facture de l'importateur malien augmente. Mais lui, il doit en plus importer, c'est-à-dire qu'il doit transporter, les frais d'approche sont inclus. Ensuite, il y a le dédouanement, il y a la taxe interne, intérieure sur les produits pétroliers, type, il y a la taxe sur la valeur ajoutée, il y a la marge de distribution, donc nous avons le prix final à la pompe. Mais c'est là que le gouvernement intervient, parce que nous avons une structure qui s'appelle l'Office malien des produits pétroliers, OMAP, qui s'assure de l'approvisionnement régulier de notre pays en hydrocarbures, mais qui fixe aussi les prix. Il y a une commission de suivi du mécanisme de fixation des prix des produits pétroliers. et on fixe les prix plafonds. C'est l'État qui fixe le prix plafond à travers ce...
Qu'on ne doit pas dépasser.
Donc, quand on vous dit que le gasoil se vend à 920 francs le litre, 940. Ça veut dire qu'on ne peut pas dépasser ce montant. Mais on peut vendre en dessous parce que le marché est libéralisé. Mmh. Ça veut dire qu'il y a la concurrence pour la vente.
Ok. Monsieur Makalou, vous avez dit tout à l'heure les thermiques au Mali, ça occupe 70%. Alors, faudrait-il repenser aujourd'hui notre modèle énergétique?
Ben, encore faut-il que nous ayons une politique énergétique. Le dernier document date de 2006. Depuis 2006, on n'a pas élaboré un document de politique énergétique au Mali.
Sous le régime ATT.
Donc, je vais vous donner un exemple. En 2003, la production énergétique, le mix énergétique était composé à 83% d'hydroélectricité, l'électricité des barrages, et 17% de thermique. Et le baril de pétrole, il valait $25.
Moins cher.
Aujourd'hui, nous sommes à 70-75%. Le thermique, le baril du pétrole est à $105. Nous importons une partie et les barrages, ça a beaucoup diminué. Beaucoup moins, on est à moins de 15% pour les barrages. Mais surtout, l'avènement des énergies renouvelables telles que l'énergie solaire n'ont pas été une réussite encore dans notre pays parce qu'on ne l'a pas incorporé dans notre politique énergétique. La production d'électricité actuellement, il y a moins de 5% qui est composée d'énergie solaire.
D'accord. Alors, vous partagez l'avis de Makalou quand il dit qu'il faut une politique énergétique puisqu'on est dépendant de 70% du thermique qui est alimenté par le gasoil et fioul.
Bon, moi, je pense qu'il faut que l'État... Ce que Yassimi avait dit il y a deux ans de cela, ou une année et quelques, ils ont dit qu'ils vont penser aux panneaux. Et puis l'énergie solaire, ils vont subventionner les panneaux, les batteries lithium et ses consorts. Vraiment, je voudrais que l'autorité de la transition pense à cela. Il faut diminuer ces produits-là pour que tous les consommateurs au monde puissent avoir ces panneaux.
C'est-à-dire, tout ça, il s'agit de subventionner ou bien vous voulez que l'État mette un accent particulier sur ça en développant, puisqu'on a eu des centrales ont été installées, celles dont les travaux sont en cours à Safo et puis à Samalan-Koroba.
Non, il ne s'agit pas de ça, il s'agit des ménages. Et que l'État diminue les produits, c'est-à-dire...
Sur le marché,
surtout les batteries de lithium. Même les banques, les différentes banques peuvent même, donner un prêt ou bien de faire une structure, de créer une structure. Même si l'État même peut faire ça, créer une structure et puis aller installer certains ménages pour que même à la fin du mois, ils puissent même faire les recouvrements jusqu'à ce que leur argent termine.
Donc, une solution selon vous. Monsieur Makalou, la crise, ça impacte de façon générale la chaîne économique. Voilà. Donc, il y a beaucoup de secteurs qui sont touchés. Alors, aujourd'hui, comment faire en sorte que les ménages souffrent moins?
Mais écoutez, moi, vous savez, l'inflation, c'est ce qui m'inquiète. C'est la hausse généralisée des prix des biens et des services que nous consommons tous les jours. Et vous savez, les hydrocarbures sont un déterminant important du calcul dans l'inflation. Parce que comme je vous l'ai dit, ça concerne les prix de l'énergie, ça concerne les prix de transport, les prix de l'habitation et les prix de l'alimentation. Et l'alimentation joue un rôle très important. Vous prenez le Malien moyen, vous savez qu'il consacre 40 à 60% de son revenu à l'alimentation, la nourriture. Et parce que nous avons des familles nombreuses en plus, donc c'est un souci quotidien, ce qu'on appelait le panier de la ménagère, peut-être le sachet de la ménagère.
Quelqu'un me disait
devenu le sachet de la ménagère. Mais bon, vous savez, c'est un problème mondial. Hein. Vous voyez les prix aux États-Unis, ils ont beaucoup augmenté. En Europe, la même chose. Et même le Nigeria, premier producteur africain de produits pétroliers, les prix ont augmenté à Lagos. Le prix actuellement a augmenté de 35%. Bien vrai qu'eux, ils sont encore à 600 francs le litre, mais c'est une augmentation substantielle pour eux. Donc, il faut subventionner. Et c'est ce que l'État fait. Mais l'État subventionne déjà beaucoup de produits. Et quels sont les moyens de l'État? Nous avons un déficit budgétaire dans la loi de finances 2026 déjà de 520 milliards. Il était de 581 milliards dans la loi de finances précédente. Et ces 580 milliards, il faut les emprunter. Donc ça va augmenter la dette publique. Mais maintenant, en augmentant les subventions, parce que l'OMAP a dit que il y a une subvention supplémentaire de 3 milliards, parce que si cette subvention n'était pas intervenue, on aurait dépassé les 875 francs le litre pour l'essence et les 920 francs le litre pour le gasoil.
Okay.
Voilà, donc cela va faire que les recettes fiscales de l'État vont diminuer et ses dépenses budgétaires vont augmenter, c'est-à-dire le déficit va se creuser et la dette publique va augmenter davantage.
D'accord.
Mais nous n'avons pas le choix.
Dette publique. Je vous invite à présent à suivre ce reportage réalisé par notre collègue Sita Sidibé sur la hausse des tarifs des transports juste après l'augmentation des prix des hydrocarbures par le gouvernement.
À la gare routière de Sogonoukou, les prix des tickets pour les bus ont déjà augmenté. Dans cette compagnie, les tarifs pour le trajet Bamako-Kenyeba est aujourd'hui à 12 000 francs CFA, alors qu'il était de 8 000 francs il y a quelques jours. Souleymane Samake, dit Big, est le chef d'agence de la compagnie.
C'est normal, parce que déjà on a augmenté sur le gasoil, donc nous aussi on est obligé d'augmenter, sinon on ne peut pas travailler.
Cette augmentation des prix est constatée sur tous les billets, quelle que soit la destination, comme le témoigne ces voyageurs rencontrés sur place.
J'ai pris un billet de Bamako à Didjan à 13 000 francs CFA, alors que c'était vendu à 7 000 francs CFA.
De Bamako à Dabia, c'était 7 000 francs, mais aujourd'hui, c'est 9 000 francs CFA.
Je pars à Sikasso, j'ai pris un billet à 9 000 francs CFA, or c'était 6 000 francs.
Le transport urbain n'est pas non plus épargné par cette hausse. Au carrefour de la Tour d'Afrique à Falajé, des passagers se précipitent dans un souterrain. Cette dame affirme avoir constaté une augmentation de 50 francs sur le prix habituel.
De la Tour d'Afrique à Raïda, il nous amène à 250 francs CFA et de Sirakoro au monument de la Tour d'Afrique actuellement, c'est 250 francs, alors que c'était 200 francs CFA auparavant.
Première conséquence de la flambée du prix du carburant, la hausse du prix du transport, sera-t-elle la seule? Rien n'est moins sûr.
Reportage signé Sita Sidibé. Alors, M. Diarra, peut-on dire que c'est l'une des conséquences directes de l'augmentation du tarif du prix des hydrocarbures?
Bon, je peux dire ça, oui. Mais avant d'augmenter ces prix-là, parce qu'il y a une commission des prix au niveau du ministère du Commerce et de l'Industrie. Normalement, au lieu d'augmenter ces prix, il faut passer par cette commission d'abord. Auparavant, nous, notre association faisait partie de cette commission. Depuis trois ans de cela, nous, on n'a pas siégé dans cette commission. Mais je sais que cette commission existe depuis longtemps. Au lieu d'augmenter les prix de transport, il faut créer la commission siège d'abord.
Ouais, d'ailleurs, par rapport à ça, le gouvernement prévient les compagnies de transport vraiment que l'augmentation de prix devait se faire en concertation avec le gouvernement et ainsi que les acteurs. Mais face à cette situation, vous, en tant que fêtière des consommateurs, face à de telles situations, comment réagissez-vous?
Bon, vous voyez, au Mali, il n'y a pas de contrôle. Même si l'État subventionne ces produits-là, c'est que M. Makolo vient
de dire. Pourtant, il y a des structures de contrôle.
Il y a des structures de contrôle, mais il dit qu'ils n'ont pas tellement. Il n'y a pas assez de personnes. Souvent, il y a même des problèmes de véhicules. Même souvent, il y a même problème de carburant. On a eu à parler avec un service technique de l'État. Il nous a dit que souvent, même pour faire des sorties, c'est un problème. Parce qu'il y a les véhicules, mais il n'y a pas de carburant. C'est pas commencé aujourd'hui, ça fait plus de 5 ans.
D'accord. Monsieur Makalo, comment rationaliser aujourd'hui les prix des transports urbains et interurbains pour faciliter un peu la mobilité des populations?
Bon, je pense qu'il y a eu quand même une réunion, si j'ai bonne mémoire, mercredi dernier, entre le ministère des Transports et les fêtières. Les fêtières existent. Je pense que, comme M. Diarra l'a dit, il faut une plus grande concertation. Mais il faut que ça aille vite parce que, écoutez, si les prix ont augmenté samedi, vous ne pensez pas que les transporteurs ils vont attendre une semaine ou deux semaines qu'on vienne faire des réunions, tout ça. Et je crois qu'il faut aller très vite parce que le secteur privé ne peut pas attendre. Parce que sur chaque client, s'ils n'augmentent pas les prix, bah, écoutez, c'est une perte pour eux. Je vous donne un exemple. Les compagnies aériennes, depuis la crise crise depuis la guerre au Moyen-Orient. Le prix du kérosène, c'est-à-dire le carburant qu'on met dans les avions, a beaucoup augmenté. Mais ça a été une réaction immédiate des compagnies aériennes. Hein, parce que, évidemment, cela va amener des pertes si vous n'ajustez pas les prix à la vente. Hein, parce que vos charges ont augmenté. Donc, je pense qu'il faut une concertation le plus rapidement possible pour que les prix soient homologués. Mais surtout, il faut que les prix soient raisonnables, qu'il y ait des prix plafonds. Mm-hmm. Parce que la hausse du prix du gasoil, c'est de 30%. Donc, les transporteurs dont les charges ont augmenté de 30%, ils ne peuvent pas augmenter ces prix de 50%. Donc, il faut cette concertation, il faut ce dialogue public-privé. Et je pense que c'est la solution, mais il faut que ça se fasse rapidement.
Monsieur Diarra, on a l'impression que vraiment il y a un grand écart entre les prix pour les mêmes zones. Par exemple, Bamako-Sikasso, Bamako-Ségou, on a l'impression que chaque compagnie fixe son prix. Est-ce que les mesures préconisées par les structures qui sont chargées de contrôle et du marché et de ce secteur-là ont montré leurs limites?
Bon, ils ont montré leurs limites parce que je sais que moi, je viens de dire tout de suite, là, ils ont dit qu'ils n'ont pas assez de personnel. Pour ce contrôle, vraiment. C'est ça le problème même. Il faut que l'État pense aux services techniques et puis recruter beaucoup de gens, mettre à leur disposition, c'est-à-dire des matériels de travail, ces consorts. Si l'État n'arrive pas à faire ça, vraiment, on ne peut pas sortir.
Monsieur Makalou, est-ce que ces structures-là sont
Nous sommes dans une économie libérale. Bon, je pense que c'est un procès qu'on fait surtout à la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence.
DGCC.
DGCC. Bon, ils font ce qu'ils peuvent, mais en même temps, vous savez, on ne peut pas tout contrôler. Il faut surtout le suivi. Mm-hmm. Et je pense que c'est pour cela qu'il faut augmenter les concertations, ce dialogue public-privé. Et ça se fait ponctuellement, ce contrôle. Mais on ne peut pas demander à la DGCC de contrôler sur tous les axes et sur tous les prix, parce que c'est une inflation, c'est la hausse généralisée des prix. Le prix de la viande a augmenté, le prix des carottes ont augmenté. Moi, je le sais. Oui. Parce qu'on se plaint au plein de moi, ça a augmenté, ça a augmenté. Donc, est-ce qu'on peut surveiller tout cela? Mais je pense quand même qu'il faut quand même faire en sorte qu'il y ait des contrôles ponctuels et qu'il y ait des concertations pour que les prix, vraiment, la hausse des prix soit limitée.
D'accord. Justement, M. Makalou, comment lutter contre cette inflation qui a déjà amorcé, selon vous?
Mais écoutez, nous traversons une période difficile et c'est tous les pays du monde. Donc, je pense qu'il faut aller vers une politique conjoncturelle. C'est-à-dire qu'il faut aller vers une politique fiscale plus généreuse selon les moyens de l'État. C'est par exemple pendant la période de Ramadan, les subventions aux produits de première nécessité. Le carburant, je pense que c'est un bon début déjà. Mais le problème, c'est que cette crise, on ne sait pas combien de temps elle va durer. Est-ce qu'il y aura escalade au niveau de la guerre? Est-ce qu'il y aura des escalades? Est-ce qu'il y aura une solution? De toute façon, il y a un problème encore plus crucial, c'est quand même les intrants, l'accès aux intrants agricoles. C'est la période des cultures maintenant. Et vous savez, entre mai et juin, si les intrants agricoles ne sont pas disponibles, qu'est-ce qui va se passer par rapport à la production nationale? Et aussi, le fait que nous importons quand même pour plus de 500 milliards de denrées alimentaires chaque année, maintenant que les transports maritimes ont augmenté, 80% du commerce mondial est basé sur les transports maritimes. Le transport aérien a augmenté, le transport terrestre a augmenté, ce qui fait que tous les prix vont augmenter. Le gouvernement doit subventionner, mais la marge de manœuvre du gouvernement est limitée parce que ses moyens sont limités.
D'accord. Mais est-ce qu'il ne faut pas aussi booster le secteur agricole? D'ailleurs, récemment, le gouvernement a fait une rencontre où le budget a augmenté. Est-ce qu'il ne faut pas mettre l'accent sur les productions locales? Puisqu'on est tributaire à l'importation, où le monde aujourd'hui fait face à des problèmes.
Non, au Mali, vous savez, Il avait été décidé par les chefs d'État africains en 2003 à Maputo, au Mozambique, que les pays africains devaient consacrer au moins 10% de leur budget au développement rural. Le Mali fait partie des moins de 20 pays sur les 54 qui appartiennent à l'Union africaine qui respectent ce critère. Mais il faut aller plus loin. Et on a une loi d'orientation agricole, il faut la mettre à jour. Et on a une stratégie d'augmentation des investissements dans le secteur agricole. Mais il faut qu'on aille plus loin parce que les effets sont limités dans le temps. Et vous voyez, aujourd'hui, il faut qu'on aille vers cette transformation structurelle. Il faut réduire les coûts des facteurs de production. Le Mali est grand producteur de riz, le Mali est grand producteur de coton, grand producteur de céréales, mais ça ne sait pas. Parce que nous n'arrivons pas à transformer, à ajouter de la valeur. Et c'est à ce prix que nous allons quand même pouvoir satisfaire cette sécurité alimentaire. Et je pense que nous avons tous les moyens pour cela. Je pense que la volonté politique existe, mais il faut aller plus loin.
Ok. Faudrait-il aujourd'hui explorer, M. Diarra, l'agriculture, mettre l'accent sur ce secteur pour que nous produisions suffisamment et exporter aussi?
Oui, bon, l'État malien doit au moins s'occuper au salaire aux agriculteurs. Aujourd'hui, ce que moi je peux dire, c'est que les cultivateurs sont des pauvres.
C'est-à-dire,
parce que c'est eux qui cultivent. Mais il y a même autofinancement maintenant. C'est ça que moi, parce que lorsque moi j'étais au village, il y a des commerçants, même à Bamako, ils autofinancent, leur récolte. Ils donnent l'argent, ils achètent les intrants tels que les engrais, ces consorts-là. Après les récoltes maintenant, quand c'est-à-dire c'est le commerçant même qui vient prendre ces produits-là, et puis il va les vendre, et puis il coupe son argent, et puis il remet les restes de son argent au cultivateur. C'est ce qui n'est pas normal. L'État doit aussi vraiment penser aux agriculteurs.
Ouais. Mais est-ce qu'aujourd'hui les jeunes sont motivés à aller cultiver les riz, le maïs, pour que nous ayons autosuffisance alimentaire?
Oui, les jeunes, vraiment, ils ont envie d'aller faire, mais les moyens, c'est les moyens. L'État même doit mettre des moyens, c'est-à-dire, il doit même créer des grandes écoles pour la formation des jeunes.
D'accord. Ok, M. Makalou, l'État doit mettre des moyens, mais tout ce que vous venez de dire tout à l'heure, importation, subvention, est-ce que cela ne met pas, c'est-à-dire le financement public sous pression?
Non, mais vous avez parlé du financement du secteur agricole. C'est un problème dans toute l'Afrique de l'Ouest. Dans l'UEMOA, moins de 5% des crédits bancaires sont consacrés à l'agriculture. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Et nous sommes net importateurs de produits de denrées alimentaires. On ne peut pas continuer comme cela. Vous savez, il y a Ali Mazrui, qui est un éminent universitaire kényan, qui disait au début des années 70, l'Afrique consomme ce qu'elle ne produit pas et produit ce qu'elle ne consomme pas. Donc il faut que nous consommions ce que nous produisons. Et c'est ce que vous êtes en train de dire, mais l'agriculture dans le budget du Mali, c'est le troisième poste après la défense, la sécurité et les enseignements. C'est le développement rural qui vient. Mais il faut que nous mettons l'accent sur la productivité. Il ne s'agit pas de mettre un budget de l'argent pour de l'argent, mais il faut que la productivité et la compétitivité soient une réalité, mais surtout la transformation. Mais si vous n'avez pas d'électricité, comment vous allez conserver ce que vous avez produit? Les mangues, les poissons, La viande aujourd'hui, vous allez au Garbal, mais c'est-à-dire il y a moins de viande parce qu'on ne sait pas comment conserver. Donc ils estiment qu'est-ce qu'on peut vendre aujourd'hui. Donc tout est lié. Et l'accès à l'énergie, à l'électricité surtout, est une fonction directe, est en corrélation directe positive avec l'activité économique, avec le PIB. Plus vous avez accès à l'électricité, plus votre activité économique augmente. Donc, je pense que ça revient encore à cette problématique.
Est-ce que l'insécurité en est quelque chose pour
absolument,
concernant l'agriculture principalement?
Absolument. Parce que, vous savez, nous avons 70% de nos populations qui vivent en zone rurale. Et les plus grands déplacés internes et externes proviennent des populations rurales. Et ce sont ces populations rurales qui nourrissent les populations urbaines. Donc s'il y a des difficultés au niveau sécuritaire dans les zones rurales, évidemment la productivité va baisser. D'ailleurs, quand on regarde la structure de notre économie, on se rend compte que le secteur primaire, le agro-silvopastoral, a baissé dans le produit intérieur brut, le PIB, dans l'activité économique. On est passé de 40% du PIB pour le développement rural, nous sommes maintenant à 35%. Donc, faisons attention.
D'accord. Alors, au niveau local, est-ce qu'aujourd'hui, l'insécurité impacte ce secteur agricole?
Si, parce que dans la zone de Nyono, même s'il y a les travaux champêtres et consorts.
Dans l'office,
après avoir terminé les récoltes, bon, il y a les djihadistes qui viennent souvent brûler les champs. Mais actuellement, bon, je ne sais pas si cette année on va le faire. Parce que paraît-il que l'insécurité commence à diminuer un peu. Il n'y a que des bandits armés.
D'accord. Voilà. Selon vous, l'État doit mettre assez de moyens pour sécuriser ces zones?
Pour sécuriser ces zones.
Ok.
Et surtout si c'est possible, de mettre même les camps militaires.
D'accord. Monsieur Makalou, vous avez parlé de ces subventions de l'État, mais qu'en est-il de la soutenabilité? Est-ce que comment l'État doit mobiliser des ressources pour faire face à ces enjeux-là?
Il faut aller vers l'approche filière. Nous avons de nombreuses filières qui ont été identifiées dans notre pays. La filière coton, c'est un excellent exemple. Il y a un contrat plan entre l'État et la CMDT. Il y a un certain nombre de choses qui se font, les pistes rurales par exemple. Parce que vous ne pouvez pas demander aux paysans de tout faire. Et d'abord, l'accès à la terre. Ces paysans, la plupart, n'ont pas de garantie, n'ont pas un foncier qui peut leur procurer une garantie pour avoir accès à un financement. Donc l'État doit voir un peu comment ce financement peut être accessible au secteur rural. Le lait, par exemple, vous savez, nous importons pour environ 30 milliards de lait en poudre chaque année, alors que nous avons le deuxième plus important cheptel en Afrique de l'Ouest, après le Nigeria. Nous ne faisons pas de viande, nous ne faisons pas de peau, nous ne faisons pas de cuir. Tout cela, c'est il faut que nous allions vers cette transformation, la création de la valeur ajoutée. Nous en avons les moyens. Je pense que les instruments sont sur place, la volonté politique est sur place, mais il va falloir que nous allions vers cette transformation structurelle. C'est ça la réalité des choses.
D'accord. Monsieur Mokhtar Diarra, est-ce que vous partagez cet avis? Comment renforcer cette productivité, booster le secteur afin que ça nourrisse son homme et afin que ça soit une opportunité pour les populations?
Bon, ce que moi je peux dire par là, il faut ce que nous produisons, il faut que nous consommons. Produisons ce que nous consommons.
Et justement, il faut qu'on produise pour que nous consommons. Comment renforcer cette production?
Bon, pour renforcer cette production, il faut que l'État, c'est-à-dire mettre des sommes, aider les travaux champêtres, c'est-à-dire les agriculteurs
dans
les conditions.
D'accord. Alors, c'est ce qui met fin à cette émission.
Je vais ajouter que dans tous les pays du monde, l'agriculture est subventionnée par les États.
D'accord, M. Makalou, merci. Alors, c'est ce qui met fin à cette émission de débat. Grand merci à nos invités, Modibo Mao Makalou, économiste, Mokhtar Diarra, président de l'ALCOM, Association Libre Consommateur du Mali. Merci à toutes et à tous. À la semaine prochaine.